Direct en jeu, la radio insolite, vous savez qu'il y a des choses que j'adore. Et là, je dois dire pour commencer un bonjour à une personne en particulier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Alors, il y a un truc que j'adore, c'est quand je me fais dépasser, doubler, et je le dis avec le sourire, par des copains. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à toute l'équipe d'Armada, puisque tu étais tout à l'heure chez Armada en train de faire une émission.
Eh oui, absolument. C'était une première. Hein.
Voilà.
Une toute première.
Eh bien, ça, c'est un truc que j'ai découvert tout à l'heure en allant regarder ton profil, en préparant cette interview. Et puis moi, je ne peux pas oublier que mon tout premier direct du Tour de France, je l'ai fait avec Rama Baloul, le patron d'Armada. Et puis, on a fait pas mal de trucs sur les fous chantants. Et Armada, c'est une radio qui est bien tranquille, bien discrète, mais qui avance bien, très bien, très bien, avec des gens droits, avec des gens merveilleux. Bon, allez, c'est parti.
Eh ben, le hasard fait bien les choses.
Oh, mais zut, hein. J'ai déjà commencé à enregistrer. Bon, mais c'est pas grave. On est déjà, on s'est déjà lancé. Bon, alors, d'accord. J'ai affaire à un monsieur qui s'appelle Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, si je vais le présenter, je vais essayer de te présenter. Alors, il est artiste, il est musicien, il est batteur, il est saltimbanque, il est administrateur, il est président. Il n'y a pas beaucoup de présidents en France, hein, c'est bien. mais attention, hein. Et puis il est aussi gérant. Et puis il fait de l'enseignement. Bon, d'accord, allez, moi j'arrête. Bonjour Jean-Paul, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Bonjour, bonjour. Ben, qui je suis? Jean-Paul Bazin. Donc j'ai un parcours de musicien, effectivement. Pour commencer, où j'ai exercé pendant 30 ans le métier de batteur et de percussionniste. Et puis ensuite, je suis devenu président et gérant de la Spedidam, qui est une société de droit, de gestion de droit pour les artistes interprètes, pendant 6 ans. Et puis ensuite, je me suis tourné vers la production. Et depuis 2015, je fais de la production de spectacles, après avoir fait aussi de la production de disques à une certaine époque. Voilà.
Oui, mais alors il y a autre chose, je vais quand même le dire. Alors on connaît les petits TPE, la terminaux de paiement électronique qui s'appelle SAMAP, mais toi, tu as fait SAMAP aussi, mais c'est pas la même chose le SAMAP.
Le SAMUP?
Oui, SAMUP, ouais.
Bah... Ah pardon, oui, parce que je comprenais pas au téléphone.
Bah non, UP, on dit
AP. J'étais aussi d'un syndicat d'artistes musiciens pendant 10 ans à peu près, ouais. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, mais bon... c'est un parcours assez long, hein. Je suis plus de toute première jeunesse, donc ça explique les choses.
Voilà. Mais tu viens d'avoir 18 ans, je crois, c'est ça, non?
Oui, c'est ça, il y a quelques années de ça.
Ouais, 18 ans des poussières, mais bon, c'est pas très important les poussières.
Voilà. Dans le monde d'avant, oui.
tu es comme tout le monde, tu es né au 20e siècle, au deuxième
millénaire? Je suis né au 20e siècle, oui.
D'accord, donc au deuxième millénaire aussi, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Tu as vu aussi le premier homme marcher sur la Lune?
Je l'ai vu en direct à la télé, oui.
D'accord. Et tu as vu, vu aussi le module se poser sur Mars, donc tout va bien.
Voilà, j'ai suivi ça de très près.
Ouais. Ben voilà. Si j'ai souhaité échanger avec toi, c'est que simplement j'ai entendu parler d'une association, d'un collectif. Alors, je fais exprès de dire j'ai entendu parler parce que je vais te laisser dire le nom de ce collectif et expliquer un peu quelle est sa fonction et son rôle.
Alors, le collectif s'appelle Amis Entends-tu. Pour ceux pour les plus jeunes d'entre nous, donc c'est le titre d'une chanson célèbre de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des paroles qui avaient été composées par Maurice Druon, si mon souvenir est bon, qui a été reprise. Cette chanson a été reprise par plein d'interprètes différents, et c'est une chanson de résistance, évidemment. Donc le collectif s'appelle Amis Entends-tu, et rien que dans son titre, tout est dit. Voilà.
Bon, je voulais te remercier, voilà, c'est fini, puisque dans le titre, non, je rigole.
C'était un plaisir.
Bon, c'était sympa, voilà, ça n'a pas duré longtemps, non. Pourquoi avoir choisi ce nom?
Alors, c'est une histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je produisais une pièce de théâtre qui était jouée au studio Héberto à Paris depuis le 20 septembre. Et... le soir où on a appris, c'était le 29 octobre, où on a appris qu'on n'allait plus pouvoir jouer et que toutes les salles allaient être fermées, on s'est retrouvé après la dernière représentation, donc avec Trinidad, qui est l'autrice, et l'interprète de cette pièce, avec Bérangère Dautin, qui est la directrice du théâtre et du studio Héberto, qui a été sociétaire de la Comédie-Française pendant 33 ans, Stéphanie Gamara, qui est une chargée de diffusion et qui est administratrice aussi du théâtre Héberto. Et on s'est regardé tous les quatre et on s'est dit... Là, ça suffit. Maintenant, ça fait déjà depuis le mois de mars qu'on nous empêche de faire notre métier et de vivre tout simplement notre passion et de vivre tout simplement notre vie. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, l'idée de créer ce collectif est venue. Et Bérangère Dautin a tout de suite trouvé ce nom qu'on a trouvé excellent parce que ça sonne bien et c'est très explicite. Et se sont joints à nous rapidement Gaëlle Biodano, qui est une comédienne... qui a été notamment nominé au Molière pour la pièce La journée de la jupe, et un pianiste compositeur qui s'appelle Paul Staïkou qui s'est joint à nous. Et voilà, donc à nous six, on a décidé de monter ce collectif, au début avec la seule volonté de clamer notre colère devant la manière dont était gérée la crise sanitaire d'une part et dont était traité le monde culturel d'autre part.
Tout à fait.
Donc on a lancé une pétition qui a recueilli 5300 signatures assez rapidement, qui demandait tout simplement la réouverture immédiate définitive des salles de spectacle et des lieux de culture. Voilà comment a démarré cette histoire. Et puis ensuite, on a été un peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que autant de gens répondent à cet appel, quoi, hein, de résistance, on va dire. Et puis on s'est dit aussi qu'on savait qu'il y avait beaucoup de petits collectifs comme le nôtre qui se créaient dans toute la France avec des gens un peu isolés qui se disaient il faut faire quelque chose mais sans forcément avoir une idée de la manière dont organiser tout ça. Et donc notre deuxième objectif au niveau d'Amis Entendus était de trouver un moyen de fédérer un maximum d'autres collectifs pour avoir une action commune et créer le rapport de force suffisant pour qu'on puisse être entendu et que le monde du spectacle ne soit pas oublié, quoi, tout simplement, malgré les compensations financières qui ont pu être octroyées à la culture. Je dis bien le mot compensation et non pas aide, hein, ça c'est très important, parce que
tout à fait.
À partir du moment où on nous empêche de travailler, la moindre des choses, c'est de nous donner une compensation. Et donc voilà, donc on est parti là-dessus, et puis ensuite... on a étendu un peu notre réflexion sur les atteintes extrêmement graves aux libertés qui sont actuellement le fait qui sont faites dans notre pays, quoi, pour un pays qui se dit le pays des droits de l'homme et de la liberté. Là, je pense qu'on a atteint des sommets, quoi, hein, qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, quand même. Il faut le souligner.
Je ne sais même pas si durant la Seconde Guerre mondiale, ça a été si loin, parce que là, franchement...
Y avait un couvre-feu, mais enfin, on était sous occupation, quoi.
Oui, voilà. Donc, alors qu'on n'est pas censé être sous occupation en ce moment.
Là, les choses sont un petit peu différentes, quoi. Vraiment, nous, on a l'impression que notre président Macron nous a dit qu'on était en guerre, mais on se demande contre qui il est en guerre, quoi. Si c'est contre le virus ou si c'est contre la population française, quoi.
Justement, avant de parler de cela, parce que bon, c'est important, je trouve que le champ des partisans qu'on peut retrouver. C'est important, mais il y a une question, je vais te la poser. Dans le but de l'association, un truc qui m'a surpris, c'est marqué la défense, la promotion, le développement de la culture, mais c'est marqué sous toutes ses formes.
Oui.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la culture, elle peut se faire de manière virtuelle, par exemple.
Ah non,
je le fais exprès. Je l'ai fait exprès.
Oui, j'ai bien compris. Mais non, mais pourquoi pas finalement. De toute façon, c'est déjà le cas. Une partie de la culture s'exprime via les réseaux sociaux, via Internet, de façon virtuelle. C'est pas un problème. Le sens de l'objet, c'était surtout la culture sous toutes ses formes, sous toutes les formes de culture. Peut-être que c'était pas assez explicite. C'est-à-dire que pour nous, la culture englobe le théâtre, la musique, le patrimoine, éventuellement aussi la gastronomie, puisque c'est pas partie du patrimoine culturel français. Et dans notre esprit, la culture, c'est ce qui fait l'âme d'un pays. C'est-à-dire qu'un pays qui n'a pas de culture et un pays qui n'a pas d'avenir. Ce qui nous reste de toutes les civilisations anciennes, c'est justement la culture de ces civilisations, c'est ce qu'ils ont pu faire passer par les sculptures, par les peintures, etc., quoi. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Mais on n'a pas de. On n'est pas opposé à la diffusion de la culture via les nouvelles technologies. Ce serait totalement ridicule de notre part. Simplement, il faut l'encadrer et pas faire n'importe quoi.
D'accord. Ok. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une pétition pour réussir à se faire entendre?
Alors, non, non, une pétition, c'est un outil. Je veux dire, c'est pas une pétition, ça n'a jamais résolu un problème, sauf à ce qu'il y ait 68 millions de Français qui la signent encore. Mais c'est un outil pour exprimer son mécontentement, notamment, et puis aussi pour réunir les gens, quoi. L'idée, c'était de faire d'avoir une action qui permette de voir qu'on existe, et puis de fédérer tous ceux qui voulaient nous rejoindre et qui étaient dans leur coin et qui se demandaient comment ils pouvaient faire pour partager nos idées, quoi. Dire, notre problème, c'est pas d'essayer de convaincre les gens qui sont pas d'accord, ceux qui ont peur de mourir, etc. Notre problème, c'est de rassembler ceux qui sont sur nos convictions et de manière justement à pouvoir travailler ensemble.
Oui, c'est oui, tout à fait.
Voilà, c'est assez ambitieux, hein. Mais après, au-delà de la pétition, il y a d'autres actions qui ont été mises en place. Notamment, on s'est rapproché de la coordination Santé Libre, qui regroupe plusieurs collectifs comme Réinfo-Covid, Laissez-nous prescrire, enfin les médecins, les 30 000 médecins là, qui se sont réunis. Et puis, on a une action commune le dimanche matin qui a commencé il y a 2 semaines. Tous les dimanches matin à 11 h, en fait, il souhaitait faire un événement récurrent dans toute la France, dans le maximum de villes. Donc de 11 h à 11 h 45, on a un rassemblement au cours duquel on diffuse bien sûr nos revendications, et puis on en fait un rassemblement festif, surtout de convivialité, au cours duquel on fait un petit peu de sport ensemble, enfin très léger, hein, c'est un prétexte, on chante des chansons, et on essaye de recréer du lien social. C'est ce qui nous manque le plus actuellement, c'est que depuis maintenant 1 an, on est chacun dans notre coin, on est terrorisé tous les jours par les grandes chaînes de télé et les grands médias et les grands quotidiens qui nous annoncent tous qu'on va tous mourir si on sort de chez nous. Et à un moment donné, ce climat anxiogène, il faut le combattre d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc à notre petit niveau, on essaye de le faire en faisant ces actions. Alors, il y en a d'autres qui sont prévues pour le moment, puis on est en pleine réflexion, hein. Notre collectif démarre. Là, on va avoir une prochaine réunion là, mercredi prochain, qui est plutôt une réunion de travail. On avait fait une réunion publique il y a 1 semaine et demie, au cours de laquelle on a demandé à ceux qui voulaient nous filer un coup de main de venir nous rejoindre. Et on a eu de très bons retours. Et donc là, mercredi, on va organiser pour voir comment on peut amplifier notre pouvoir, enfin notre pouvoir de contestation, qu'on va dire. C'est un peu un discours comment syndicaliste ou politique que je tiens, mais c'est vrai qu'on est en pleine politique, même si le collectif se veut absolument apolitique et sans parti pris syndical ou autre. De toute façon, en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, on fait de la politique au sens noble du terme, quoi, il me semble.
Totalement, complètement. Il y a un...
Voilà.
Je pourrais même parler d'engagement citoyen qui peut être considéré quasiment comme
Voilà.
nécessaire dans une vraie démocratie.
C'est ça, c'est le sous-titre, hein, quand on a notre sigle, c'est Amis Entendus, en dessous c'est marqué Collectif Citoyen, tout simplement.
C'est important.
Voilà.
Que penses-tu de cette bonne idée, hein? Parce qu'il y a un super exercice pour le brevet des collèges ou pour le baccalauréat cette année, de cette idée de réaliser des spectacles ou des festivals avec 5 000 personnes, tous assis, en respectant les distances de sécurité, en respectant aussi les distances légales, les couloirs de 3 ou 4 mètres d'évacuation, etc. Je pense qu'il y aura sacrément un exercice à faire pour savoir de quelle surface ou de quelle taille devrait être la salle qui pourrait accueillir ce type de festival. Ça
Bah,
paraît compliqué sur
oui.
Cannes, ça paraît compliqué sur Avignon, ça paraît compliqué
Il y a
sur le...
tellement de choses à dire là-dessus. Pour moi, ce genre d'idée ne peut provenir que de gens qui ne s'intéressent absolument pas à la culture habituellement, qui n'ont jamais mis les pieds dans un festival et dont vraiment la préoccupation première n'est pas la culture en général. C'est impossible. Effectivement, 5 000 personnes avec la distanciation qui est imposée, je ne sais pas la surface, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, c'est hallucinant. Et deuxièmement, le simple fait de dire qu'on va accepter que des festivals avec des gens assis exclut de fait un très très grand nombre de festivals de leur possibilité de se tenir. Je pense au festival de métal, au festival de rock, où je vois pas des jeunes de 15 ou 17 ans ou 18 ans ou même un peu plus rester assis sur une chaise à écouter du rock. Enfin,
Il
moi,
faut
ça
les
ne me viendrait même pas à
scotcher, il
l'idée.
faut
Hein.
les enchaîner à la chaise, je crois.
Comment?
Il faut les scotcher sur la
Ah
chaise, il faut
oui,
les
non, mais terrible.
enchaîner.
C'est tellement ridicule comme proposition. C'est hallucinant. De proposer des choses pareilles, quoi. D'autant plus qu'il faut rajouter à ça que derrière, on nous dit que ça reste conditionné à un protocole qui reste à venir, mais que pour le moment, il n'est pas établi. Ce qui veut dire que les festivals d'été qui devraient déjà être en place et pratiquement
Tout à
en
fait.
finalisation d'organisation au moment où on parle, et on ne sait pas où on va, quoi. Avignon, c'est encore pire parce que il y a toutes les rumeurs qui courent sur le fait qu'a priori, il y aurait éventuellement un festival uniquement de professionnels, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas de public, enfin pas de public festivalier, donc pas de billetterie du coup. Alors, c'est pareil, les gens qui proposent ce genre de choses, il faut vraiment qu'ils méconnaissent totalement le sujet pour oser dire des âneries pareilles. Un festival d'Avignon pour un producteur, pour un spectacle, c'est environ 30 000 euros d'investissement.
C'est ça.
30 000 euros d'investissement, il sait qu'il va perdre de l'argent parce que de toute façon, la billetterie ne rembourse jamais la totalité de l'investissement. Et le business, pas le business plan, mais comment on appelle ça, la manière dont sont faites les choses fait qu'il espère se rentabiliser et puis éventuellement faire un peu de bénéfice en vendant ses spectacles à des organisateurs ou des programmateurs de salles qui viennent au festival. Mais ça veut dire que il y a un délai à peu près de 18 mois entre le moment où
Ouais, c'est ça.
le programmateur vient à Avignon et où il va le programmer réellement dans sa salle. Donc c'est un investissement sur un long terme. Là, si on nous dit, même s'il y a des gens, alors on nous parle de jauge réduite, on nous parle de limitation du nombre de festivaliers à l'intérieur des murs. On nous parle de sens de circulation, ce qui fait que les gens ne pourront pas se croiser dans les rues, ils seront forcés de faire le tour s'ils se sont trompés d'adresse. On nous parle d'interdiction de distribuer des flyers, ce qui fait l'âme du Festival d'Avignon, c'est justement ça. Je ne vois pas très bien comment on peut se faire connaître auprès du public si on ne peut pas distribuer. Enfin, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un fiasco total pour les compagnies qui investissent de l'argent dans cette affaire, quoi. Donc pour le moment, sur les informations qu'on a, enfin moi personnellement, je ne mettrais pas un centime pour aller à Avignon dans ces conditions. D'autant
Mais
plus que les tarifs de location des théâtres n'ont pas baissé et les tarifs de location des hébergements n'ont pas baissé non plus d'un centime.
ça, c'est clair que on avait un webinaire la semaine dernière avec Avignon. Moi, j'aurais signalé que même sur Airbnb aujourd'hui, pour une location au mois de juillet, on trouvait des hébergements qui continuent à délirer parce que bon, là, on va pas se cacher la vérité, à 3 000, 3 500, 4 000 € pour être hébergé à Avignon. Moi en 2019, j'étais à Bédouin à 40 km, comment dire, d'Avignon pour pouvoir trouver un hébergement à un prix honnête. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, comme tu dis aussi, pour les salles de spectacle, comment ça va se passer? Est-ce que le public va venir? Si le public ne vient pas, est-ce qu'il y aura des aides? C'est la grande question. C'est la même
D'autant
chose pour
plus.
Cannes, hein. Cannes
Non, mais il y
s'interroge
a
de la
trop
même
trop
manière.
d'incertitudes.
Je pense à plein de festivals. C'est
Il y a
assez
trop
conséquent.
d'incertitudes. C'est impossible de. Être producteur de spectacle, c'est prendre des risques, mais là, c'est pas prendre des risques, là, c'est un suicide. D'autant plus qu'Avignon, on sait que notamment enfin, le public des festivaliers, c'est quand même une tranche d'âge qui est plutôt 60, la soixantaine, on va
Oui, c'est
dire.
ça,
Donc, il va y avoir
oui.
beaucoup de gens qu'on présente comme étant à risque à propos du Covid. Donc, ces gens-là, ils vont pas se déplacer. On les a terrorisés pendant un an. Ils vont pas. On l'a vu même à la reprise au mois de septembre, quand les théâtres ont été autorisés à reprendre leur activité, même avec les distanciations, le port du masque obligatoire, etc. Les salles ne se sont pas remplies comme elles l'auraient dû. La plupart des gens avaient peur de revenir dans un lieu clos en proximité, quoi.
Est-ce que le rôle de collectif, c'est aussi accompagner les professionnels pour réfléchir sur comment bien redémarrer?
Alors, pour le moment, là, c'est oui, enfin, on a aussi cette réflexion. Après, les professionnels, ils ont leur organisation, qui sont aussi normalement censés réfléchir à tout ça, mais qui ne sont pas forcément sur les mêmes bases que nous, parce qu'en fait, ils sont plus dans des demandes d'accompagnement financier, on va dire, pour passer le cap et puis et reprendre après. Mais ils ne sont pas dans une demande express de réouverture des lieux et de reprise de l'activité. Donc, discuter avec les professionnels. Oui, après, nous, on est un collectif. On va pas pouvoir tout faire. Hein, c'est pas nous qui allons changer la société. On va faire ce qu'on peut à notre niveau. Mais évidemment, toutes les personnes qui sont de bonne volonté, qui veulent avoir une réflexion avec nous sur tous ces sujets, sont les bienvenues, même si on n'est pas d'accord d'ailleurs. Il n'y a aucun problème, au contraire. Parce qu'on ne prétend pas détenir la vérité.
Est-ce que ta fonction au sein du SPEDIDAM, qui est, on va dire, une
Oui.
société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, te permet
Oui.
d'avoir ce recul aujourd'hui pour pouvoir bien piloter la situation?
C'est un tout, effectivement, le fait d'avoir été en responsabilité dans cette société pendant 6 ans fait que j'ai pu côtoyer l'ensemble des décideurs, on va dire. J'étais en rapport constant à l'époque avec le ministère de la Culture, avec les syndicats, avec les autres sociétés civiles. Et je pouvais participer, on va dire, aux réunions où les choses pouvaient se décider, quoi. Voilà. Donc effectivement, ça me donne une vue assez globale de nos métiers, mais qui se limite à la speed, ça se limite à la musique et à la danse. Hein. Donc déjà, on n'est plus dans
D'accord.
le théâtre. Et puis parallèlement à ça, effectivement, mes responsabilités aussi en tant que responsable syndical à une époque m'ont bien sûr aidé, puisque je m'occupais essentiellement à cette époque-là des intermittents du spectacle. Voilà, ça me donne une vision assez complète, on va dire, du métier. Mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles, par exemple, le cinéma, l'audiovisuel, je suis totalement incompétent, quoi.
Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là quand ils disent mais comment est-ce qu'on fait pour vivre? Parce que bon, comme ils n'ont plus de boulot, que...
Je ne sais pas quoi leur dire, parce qu'on a un discours, notamment concernant les intermittents du spectacle, où on
Oui.
nous dit écoutez, vous plaignez pas, on vous a filé une année blanche, vous touchez vos allocations, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir. Et évidemment, le grand public pense la même chose, puisqu'ils ont malheureusement, là, pour la plupart, ne cherchent pas vraiment à s'informer. Ce que moi je sais, c'est que c'est facile de trouver les chiffres, hein, ils sont disponibles. C'est que le revenu provenant des allocations chômage pour un intermittent du spectacle représente en moyenne 50% de ses revenus au global.
Tout à
Donc ça
fait.
veut dire que je connais des gens autour de moi qui, depuis le mois de mars dernier, depuis un an donc, vivent avec 60%, voire plus de revenus en moins par rapport à ce qu'ils touchaient auparavant. Mais la moyenne étant de 50%, je trouve que c'est absolument scandaleux et très violent
C'est en
d'imposer à
dessous
des
du
gens
seuil.
une baisse de pouvoir d'achat de 50%, c'est du jamais vu. Et les gens qui nous imposent ça, qui sont les décideurs, donc, eux n'ont subi aucune atteinte à leur pouvoir d'achat, d'une part, et aucune atteinte non plus à leur façon de vivre, puisque de toute façon, ils s'affranchissent des couvre-feux, du confinement, ils continuent à vivre comme avant, quoi. La cantine du Sénat et la cantine de l'Assemblée nationale n'a pas été fermée en même temps que les restaurants dans toute la France.
Oui, puis on peut préciser qu'ils ont augmenté leur fourchette de frais de 3 000 euros il n'y a pas très longtemps. J'ai
Oui,
juste
ben
demandé aux gens de faire un calcul.
voilà, donc bon,
577
après,
députés,
voilà.
3 000 euros, c'est pas mal.
Voilà, donc c'est ça, ce sont des choses qui sont quand même qu'il faut crier, quoi, sur tous les toits. Moi, je connais des artistes qui ont été forcés de revendre leur maison parce qu'ils n'avaient plus à payer les traites, et donc qui voient leur vie complètement chamboulée. d'autres qui sont en pleine dépression parce que, bah, à force de ne plus travailler, d'être coincés dans un coin, ils ne peuvent plus exercer leur métier. Donc il y a vraiment une grosse dépression qui s'installe. D'ailleurs, beaucoup de médecins, psychiatres et psychologues l'ont dénoncé depuis quelque temps. Hein. Il y a vraiment un mal-être qui est en France aujourd'hui lié aux conditions qu'on nous impose, qui devient très inquiétant, quoi. Donc ça, c'est totalement inadmissible. Après, sur les théâtres, donc c'est d'autres problèmes qui se posent. Certains vont s'en tirent pas trop mal parce qu'effectivement, les compensations financières qui ont été données font qu'ils peuvent tenir le coup financièrement. D'autres sont sur le point de fermer. Bon, mais les choses se passent différemment. Mais au niveau de l'individu, c'est vraiment un problème, quoi. C'est un problème terrible. Donc, d'où l'intérêt de recréer du lien et d'essayer de redonner de l'espoir à ces gens-là, surtout qu'on n'a aucune perspective d'amélioration à moyen terme. On ne sait pas. On nous dit peut-être les festivals cet été, peut-être pas. Peut-être que ça reprend en septembre, peut-être pas. Il faut se vacciner. Après, on ne sait pas, quoi. C'est le pire qui peut arriver dans la vie, c'est d'être dans l'incertitude constante. C'est impossible, ça.
Ah, et puis, il y a quelques heures, on a malheureusement appris que les Alpes-Maritimes étaient en confinement partiel, entre guillemets. Et là, on est en train maintenant de parler de l'autre côté de la France, du côté de Dunkerque. C'est pas fini. Malgré tout,
Non.
ouais, j'ai une question qui est, alors, elle est basique de ses basiques, mais je la trouve tellement importante. La culture, le spectacle vivant, c'est fondamental. Est-ce que c'est essentiel?
Là,
Non,
c'est pas moi qui.
je tiens quand même à signaler, aussi bien aux éditeurs qu'à toi,
Rien n'est essentiel
que
dans la
le
vie.
mot essentiel est un mot que je m'interdis de dire, parce que quand on nous a traité de non, trois petits points, moi, je dis plutôt, nous sommes des moins que rien. Voilà. Parce que je trouve
Oui,
inadmissible
non,
d'aller.
ouais,
Je ne fais pas de linguistique, mais je trouve ça inadmissible. Mais quelque part, avec le recul, je sais que nous, le 15 mars 2020, on a commencé notre première émission sur la santé mentale. Mais est-ce que quelque part, le fait d'écouter de la musique, d'aller au ciné, d'aller au théâtre, de vivre des émotions, est-ce que c'est. J'ai même entendu comment dire
bah.
un homme de théâtre lyonnais me dire, mais sans culture, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
Oui, je sais plus si c'est pas Nietzsche qui avait dit ça, il me semble. Je me rappelle. Moi, je vais juste donner une.
Ah non.
Te citer
Attends, attends, on n'avait pas, on avait pas dit qu'on allait parler de Nietzsche, on a dit qu'on allait parler de trois jeunes ados pubères là, qui démarrent un certain Sénèque, je crois, quelque chose comme ça, non,
Oui, mais Sénèque aussi, Sénèque. Bah, non, mais je vais te donner. Enfin, je vais te faire la citation de Sénèque parce qu'elle est importante. La peur de mourir n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Il faut
ouais.
bien se rappeler ça. Et puis non, mais c'est surtout puisqu'on nous a rabattu les oreilles avec l'OMS pendant très longtemps, malgré toutes les erreurs qu'a pu faire l'OMS dans le traitement de cette crise. Dans le préambule de la constitution de l'OMS, il est dit: la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et là, tout est dit. Tout est dit. En fait, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les gens qui gèrent cette crise en France, les scientifiques du Comité national, ne traitent que la partie physique de l'être humain en faisant complètement abstraction du côté indispensable du lien social et de la santé mentale. Et donc, en ne traitant que le physique, ils rendent les gens malades mentalement et socialement, et donc ils créent d'autres maladies. Ça, c'est indéniable.
Totalement, complètement.
Voilà. Donc, parce que si on prend que le côté physique, on n'a besoin de rien dans la vie, hein. Il suffit de boire, de manger, et puis de se reproduire. Voilà. Et puis c'est tout.
L'instinct
Voilà. Et
primaire.
tout le reste est non essentiel. Et même se reproduire est non essentiel si on considère que l'espèce n'a pas besoin de continuer à exister. Donc, bien entendu que la culture, comme tout ce qui est le lien social, ne serait-ce d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de sortir, de voir des gens, d'échanger, c'est vital. C'est vital. Quelqu'un qui vit tout seul chez lui, il devient fou, il tombe en dépression. Ce terme non essentiel, c'est aussi scandaleux de l'avoir employé, quoi. Et d'autant plus que ce qui a été déclaré comme étant non essentiel à un moment donné, donc On sait très bien que c'est totalement arbitraire. Hein, c'est totalement arbitraire. Alors, il y a qu'à juste aller prendre le métro aux heures de pointe le matin et le soir à Paris pour s'apercevoir que les gens sont les uns sur les autres, ils touchent tous aux barres d'appui pour sonner. Donc toutes les mains déposent leur microbe là-dessus et là, il n'y a pas de problème. Et en revanche, dans une salle de spectacle où les gens sont assis, regardent dans le même sens avec un masque, il y a un problème. Donc c'est tellement c'est absurde. On vit un moment d'absurdité totale. Il y a une hystérie collective. Il y a une hystérie collective de nos dirigeants. Il y a, je sais pas, ils ont peur. Je sais pas ce qui se passe. C'est le syndrome du sang contaminé peut-être qui refait son apparition. Mais on vit des choses formidables. Je vais vous lire une phrase qui a été dite par notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, le 19 janvier 2021. Qui va vous faire enfin, tout de suite dans quel délire on se trouve. Alors voilà, c'était à propos de la sécurité dans les lieux de spectacle. Alors, dans la première édition du coronavirus, on a été assez sûr de nous, de façon empirique, mais on était assez sûr que les lieux étaient sûrs. Là, dans ces nouvelles éditions du coronavirus, qui sont beaucoup plus contaminantes, nous n'avons pas encore de certitude, puisque par définition, les lieux de culture sont fermés. Donc, comment peut-on tester s'ils sont sûrs? Et
Excuse-moi.
ça, c'est le ministre qui dit ça, c'est pas moi, hein. C'est écrit, c'est d'une
Excuse-moi.
dépêche de presse.
Je
Là, comment on peut après faire confiance à ces gens-là, quoi? C'est hallucinant, quoi. C'est
m'excuse.
hallucinant.
C'est.
Voilà. Bon, je sais plus quoi dire après ça, c'est
Ah non,
tellement.
non, mais attends, mais je crois que. Ouais, non, c'est. Je me demande s'ils parlent et qu'ils réfléchissent après, ou si. Alors, s'ils
Je sais pas.
réfléchissent d'abord, c'est un peu inquiétant, mais s'ils parlent et qu'ils se réécoutent après, ils doivent se faire peur, hein, parce que franchement, là, c'est impressionnant, quoi. C'est un fou.
J'en ai une autre aussi de Roselyne Bachelot qui est plus récente là. L'hypothèse d'un été sans festival est exclue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des festivals ou va pas y en avoir?
Bah non, elle a dit c'est l'hypothèse
Bah,
d'un.
l'hypothèse est exclue
Ah non, non,
d'un
non,
été
l'hypothèse
sans
est exclue, c'est-à-dire
festival.
qu'il y aura des festivals, pardon, oui,
Alors,
excusez-moi,
ça veut dire que tout le monde peut comprendre ce qu'il veut, mais quoi qu'il en soit, si on lui dit bah, vous aviez dit qu'il y avait des festivals, alors elle pourra dire non. Donc tout ça est très. Et très comment enfin ça rend fou quoi. On peut pas continuer à vivre dans une société de ce type quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Donc et au-delà de ça, on a toutes les lois qui sont passées à côté
Oui,
les lois liberticides, hein,
oui,
qui ont quand même utilisé le nom. C'est pour ça que dans notre
discrètement, oui.
pétition, on avait utilisé le nom de dictature sanitaire. Alors, au début, certaines personnes nous ont dit, ouais, vous exagérez quand même, dictature, ça a une autre connotation, etc. Mais ce terme a été repris assez récemment par beaucoup d'autres organisations. Finalement, il fait son chemin et on est vraiment dans une dictature sanitaire. C'est-à-dire que il y a quand même des décrets qui sont passés, des lois qui sont passées récemment. Par exemple, celle qui autorise, bon ça c'est un petit peu à part, il y a donc l'interdiction de circuler, on ne peut plus circuler comme on veut, le couvre-feu, c'est comme si c'était une assignation à résidence, hein. Jusqu'à présent,
Ah
seuls
mais
des gens qui avaient commis des délits se retrouvaient
totalement.
avec un bracelet électronique, obligés de rentrer chez eux à 18 h et jusqu'à 8 h du matin le lendemain matin, ça c'est vraiment bien un truc de fou, quoi. On a l'interdiction aux médecins de prescrire ce qu'ils souhaitent prescrire à leurs patients, c'est une première, ça n'a jamais existé en France, même pendant la guerre. On a parallèlement à ça quelque chose qui est très inquiétant, c'est ce décret qui est passé qui autorise maintenant à ce que les citoyens soient fichés pour leur appartenance politique, religieuse et syndicale, et plus que même tous les propos qu'ils ont pu avoir sur les réseaux sociaux notamment, puissent être eux aussi fichés. Alors, ça c'est quelque chose qui est une atteinte vraiment à la liberté d'expression et à la liberté de penser, qui est quand même fondamentale. Alors, on nous dit oui, mais c'est pas grave. De toute façon, avant, les gens qui avaient des responsabilités politiques, syndicales, ils étaient de toute façon fichés. Oui, sauf que c'était pas un fichier officiel. Et ça change vraiment la donne.
Oui, là,
Parce
c'est
que,
simplement légalisé maintenant,
voilà,
c'est
donc, et ça, c'est
autorisé.
très très grave. Ce sont des choses très graves qui se passent. On a un Conseil national de défense qui se réunit Et sous le couvert de ce terme, ça fait que les réunions qui ont lieu, on ne sait pas ce qui s'y dit, on ne sait pas qui décide de quoi, il n'y a pas de compte rendu, et les gens qui prennent les décisions ne sont pas responsables des décisions qu'ils prennent, puisque tout est secret, puisque c'est secret défense, hein, comme son nom l'indique. Et donc, on a même plus, en tant que citoyen, la possibilité d'avoir un recours contre ces personnes si ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général.
Mais j'allais te demander, Jean-Paul, est-ce que c'est pas spécifique, enfin c'est pas spécifique à la France? J'ai l'impression qu'il y a plein de pays, en Europe en particulier, et surtout dans le monde entier, qui sont en train de mettre en place le même système. Alors, il y a de quoi
Oui.
s'interroger là-dessus. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai entendu par exemple que le fameux passeport sanitaire en
Oui.
Israël, ben, ça permettait d'aller au restaurant ou d'aller au cinéma. Parce que si on n'a pas le passeport sanitaire, on n'a pas le droit d'y aller. Donc si on n'est pas vacciné, là, c'est une limitation en effet des. Il n'y a plus de liberté. Le seul truc qui est tant qu'en France, on a juste un truc qui dit liberté, égalité, fraternité, quoi, c'est tout.
Oui, mais bon, on voit bien, enfin, moi, je vois bien où tu veux en venir. Bon, de toute façon, là, aujourd'hui, dès qu'on émet le moindre avis qui critique ou qui va à l'encontre de la doxa, hein, on est traité de complotiste, hein, donc tout de suite,
Totalement,
c'est voilà, t'es un
complètement.
complotiste, alors ça y est, t'es dans une case, et puis c'est fini, on peut plus rien dire. Avant, on était nazis. Enfin, y a tout, 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 ce sont des choses qui sont mises en place. Il y a une volonté derrière que certaines paroles ne se fassent pas entendre, quoi. On voit bien comment ont été traités les films comme Hold Up, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver, hein. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce film. D'ailleurs, pas du tout d'accord avec certaines choses. Mais quand même, il y a des vérités qui sont dites. Et on peut pas les nier, quoi. Et quand on voit le traitement qui a été fait de ce film par les grands médias tels que Le Monde, Libération et L'Express, c'est totalement scandaleux, quoi. Il y a un parti pris qui est hallucinant, quoi. Donc effectivement, derrière, ça se met en place. Quand on dit dans le monde entier, c'est surtout dans les pays occidentaux, hein, quand même. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais pas. Je lis des choses. Bon. Qu'il y aurait comme quoi il y aurait une gouvernance mondiale qui déciderait de ça, etc. J'en sais rien. Moi, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. J'ai pas assez de connaissances pour me prononcer. Je me limite à la France, à ce qui se passe en France, et je considère que à chaque fois qu'on nous donne l'exemple d'un pays étranger, c'est toujours pour aller dans le mauvais sens. On ne vante jamais les mérites. Par exemple, en France, les enseignants sont les moins bien payés de l'Union européenne. Et ça, par contre, on n'en parle pas. On ne donne pas l'exemple de l'Allemagne où ils sont payés 28% plus cher. Là, ça, on n'en parle pas. On prend l'exemple des pays étrangers toujours pour baisser le niveau ou pour remettre en cause des acquis dans notre propre pays. Donc là, il y a une vraie volonté politique de manipulation de l'opinion. Donc voilà. Donc après, ce qui se passe. Moi, je sais qu'encore la semaine dernière, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à Monaco, par exemple, pourtant c'est Monaco, c'est la frontière française, les salles de spectacle étaient ouvertes, les restaurants étaient ouverts.
Oui, exact.
Voilà.
Oui. Et il n'y avait que les gens qui habitaient Monaco ou des gens qui travaillaient à Monaco qui avaient le droit de rentrer à Monaco parce que les Monégasques ne voulaient
Voilà.
pas voir les Français, les touristes français, comme ils disaient. Tout à fait. Non, mais c'est bien exact.
Donc, on fait avec les informations qu'on a. On sait qu'on a une rétention d'informations importante. On est forcé d'aller s'informer comme on peut. Mais c'est certainement pas en regardant les grandes chaînes de télé et les grands journaux quotidiens qu'on peut avoir une information objective sur ce qui se passe actuellement. Voilà, on l'a vu.
Enfin, moi, je voudrais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui se disent journalistes et qui ont des cartes de presse. Ben, il y a de quoi s'interroger, hein, parce que
Oui.
il y a quand même un code de déontologie, si je puis me permettre. Moi, je parle beaucoup du code mondial de déontologie et d'éthique qui a été édicté en Tunisie en 2019. Ben, je sais pas, moi, je l'ai lu, je le respecte, je trouve ça tellement naturel. Puis bon, je cherche pas à avoir le prix Pulitzer et faire du buzz en racontant n'importe quoi. C'est quand même relativement impressionnant parfois. On se demande si l'information est toujours neutre, mais bon.
Ah non, elle l'est pas, c'est évident qu'elle l'est pas. Elle n'est pas neutre, elle l'est plus. On sait très bien par qui sont détenus les journaux,
Ah bah
tous les
oui.
grands médias en
Ah
France.
bah ça
Donc on ne
c'est
peut plus
clair.
avoir une liberté d'information.
Ah
Enfin,
oui.
ce serait naïf de le penser, quoi. Après, bon, je peux tout comprendre, hein, les contraintes financières que peuvent rencontrer les grands quotidiens, etc. Et le fait qu'ils soient obligés de faire certaines concessions. Mais il ne faut pas qu'on nous raconte des salades, quoi, derrière.
Ah, complètement. Pour information, j'en profite pour rappeler à tous les auditeurs que vous trouvez l'infographie qui n'est pas de mon fait, mais qui a été faite par le Parlement européen, par la Communauté européenne, et qui définit très très bien, comment dire, les liaisons entre la presse, les médias, l'industrie, etc., etc. Ce sont des choses qui sont reconnues. Je sais qu'il y a parfois des gens qui disent que soi-disant tout est indépendant. Ben, des fois, ça paraît un peu étonnant. Est-ce que le fait d'avoir lancé cette émission sur Armada fait que ça va être ça aussi peut-être la démarche du collectif, c'est de faire connaître, de faire savoir, d'être présent sur le terrain, que ce soit par Armada, que ce soit par par une chaîne YouTube, par la présence sur des conférences, des colloques. Est-ce que c'est ça un peu l'idée?
Oui, c'est ça l'idée, mais là, en fait, on avance en marchant, comme on dit, ou je ne sais plus quelle est la formule. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on invente au fur et à mesure que les choses, le temps passe et que les
Oui,
initiatives
c'est
sont
ça qui est
là.
bien. Oui.
Donc, première chose, essayer de réunir autour de ce collectif le maximum de personnes qui sont déjà convaincues. Encore une fois, ça ne sert à rien. Là, il y a une notion qui est totalement irrationnelle dans cette situation dont on parle, c'est la peur. Les gens ont peur, ils ont peur de mourir, ils ont peur d'être malades. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je respecte tout à fait ce sentiment qui est de toute façon irrationnel, donc on ne peut pas le combattre. Donc les gens qui ont peur, on ne va pas les convaincre qu'il ne faut pas avoir peur dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est réunir les gens qui, comme nous, se posent des questions. N'ont pas forcément peur. Ils disent, bon, bah, écoutez, quand on regarde les statistiques, je veux dire, franchement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Genre, même si on a eu 7,5%, je crois, de mortalité supplémentaire en 2020 par rapport à 2019, il y a eu moins de morts dans la tranche des moins de 65 ans. Donc il faut relativiser tout ça. Effectivement, c'est toujours malheureux quand une personne décède, mais les décès, la surmortalité concernent des gens qui sont déjà, pour la plupart, au-delà de l'espérance moyenne de vie à l'heure actuelle. Donc il faut, encore une fois, relativiser, accepter qu'on est mortel. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un pays ou dans un monde où les gens sont immortels, la mort n'existe plus, on la côtoie plus. Donc non, on n'est pas immortel. Il y a un moment donné, quand on vous dit, par exemple, que je ne sais plus comment s'appelait l'anglais, là, qui est le héros de guerre, qui est mort à 101 ans ou 102
Oui,
ans,
je
et
vois
qu'on
tout à
vous
fait.
dit il est mort du Covid, et qu'on le compte dans les morts du Covid, c'est une escroquerie intellectuelle. Je veux dire, à 102 ans, on meurt à 102 ans, oui, ça arrive, excusez-moi, et c'est regrettable, parce que peut-être qu'on aurait préféré qu'il vive jusqu'à 103 ou 104 ans, mais de toute façon, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Donc ce discours-là, ce que je fais là, je sais très bien que c'est très provocateur et que beaucoup de gens ne peuvent pas l'entendre, mais quand on regarde les chiffres précisément, en essayant de ne pas trop dans le pathos, vraiment, il n'y a pas les mesures qui sont prises. La faillite qui est programmée de l'État français, la crise économique qu'on va subir, les remboursements des dettes qu'ils vont avoir sont totalement démesurés par rapport à la situation réelle. Et quand on prend en plus, moi je suis très basique, hein, c'est tout bête, hein, vous allez sur, tu vas sur comment, sur Internet, tu prends le nombre d'habitants par pays et le nombre de décès, et on fait une règle de trois qui nous permet d'avoir le pourcentage de décès par rapport à la population. On s'aperçoit que, par exemple, le Brésil et la France, on est exactement au même stade. C'est-à-dire le même pourcentage de morts du Covid par rapport à la population, alors qu'au Brésil, ils n'ont jamais confiné, et que nous, on est en train de tuer le pays. Et aux États-Unis, c'est pratiquement la même chose aussi, un demi-pourcent près de décès. Donc tout ça est déraisonnable. C'est là le fond du problème. C'est ça qui nous révolte, en fait. C'est qu'on nous empêche, on nous empêche de vivre, on nous empêche de travailler, on nous empêche de vivre nos passions pour un problème qui n'en est pas vraiment un.
Bah écoute, moi je voulais te remercier parce que je dirais que cette émission un peu spéciale et inattendue correspond à peu près au premier anniversaire dans 6 jours d'un slogan que je n'avais pas du tout vu venir, que je n'avais pas conçu comme ça. Le slogan de Direct en jeu, qui est la radio insolite, Eh bien, le 29 février 2020, moi j'ai dit toute vérité est bonne à dire. Et j'ai vraiment apprécié que tu puisses avoir l'envie de t'exprimer de cette manière-là en disant que des vérités, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour demain, pour après-demain, pour après-après-demain?
C'est très simple, nous on veut juste vivre normalement.
Ouais.
C'est, on ne demande pas grand-chose. Hein. On veut vivre normalement. On veut, et puis on veut aussi qu'on arrête de nous manipuler. Parce que quand on nous dit, par exemple, ça y est, tel hôpital, la réanimation est à 60% de remplissage, et puis qu'on apprend qu'il y a 10 lits dans le service, ça fait 6 personnes, quoi. Voilà. Donc quand ça les arrange, ils utilisent des chiffres entiers, et puis quand ça les arrange pas, ils utilisent des pourcentages pour noyer le poisson. Donc qu'on nous prenne pour des adultes, voilà, que le gouvernement arrête de nous prendre pour des enfants. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'avoir des parents qui nous dirigent. On est grands, on est adultes, donc on prend nos responsabilités et voilà.
Je te trouve tout à fait adorable sur ce coup-là. Moi, j'aurais dit, j'aimerais bien qu'on arrête de me prendre pour François Pignon. Et je me fais un plaisir de regarder à chaque fois, comment dire.
Non, on nous prend vraiment pour des enfants et on nous infantilise. On est totalement dans cette affaire.
Mais je te dis, je te trouve très gentil sur ce coup-là.
Mais voilà.
Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver le collectif?
Eh bien, écoute, il y a un site qui c'est www.amientendu.fr. Ami au singulier, enfin, c'est. Faut prendre la première phrase de la chanson ou le titre de la chanson, donc Ami Entendu, .fr, et là il y a toutes les informations, il y a la pétition à relayer. Donc on a lancé une nouvelle pétition qui maintenant est à 1000 signatures. Voilà, et puis on communique régulièrement sur ce site. Il y a des informations tous les jours pour essayer de faire monter tout ça, et puis on te tiendra au courant des suites.
Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je vais me faire un gros plaisir et je vais appeler les copains d'Armada. Je vais leur demander si je peux relayer et même s'il le faut, rediffuser l'émission que tu fais le lundi, que vous allez faire le lundi. Je trouve que ça sera un beau clin d'œil. C'est tout parce que moi, j'adore rediffuser comment dire, les deux émissions qu'on avait fait avec Rabat et puis tous les autres trucs qu'on a fait. Merci à toi. À très, très vite en tout cas.